Mémodio, une mémoire sonore.
Emmanuel, tu es historien, rédacteur en chef du Droit de Vivre, journal historique de la LICRA, à l'époque LICA, et tu viens ce soir pour cette conférence que nous organisons en partenariat avec nos amis de la Maison de l'Afrique à Toulouse. Tes recherches portent sur le racisme, les antiracismes dans la France contemporaine. Un docteur en histoire en 2010, si je ne m'abuse, avec un doctorat que tu as publié aux origines de l'antiracisme, la LICA 1927-1940, qu'on retrouve aux éditions du CNRS, et plus récemment, le racisme dans le prétoire, antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice. Parallèlement à tes travaux de recherche et tes travaux d'historien, à ta profession aujourd'hui auprès de la LICRA, tu es intervenu dans de nombreux champs qui nous concernent, notamment sur une encyclopédie des lieux de la résistance en Île-de-France, nous en parlions tout à l'heure, ainsi que au sein de la Fondation Spielberg, pour laquelle tu as longtemps œuvré. Qui est une base de ressources inépuisable et vers laquelle il faut savoir retourner dès lors que l'on parle de déportation et de persécution. Par ailleurs, tu sièges désormais à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, où nous avons le plaisir de nous retrouver 3 à 4 fois par an sur les expertises de dossiers mémoriels. En somme, tu es à la fois un historien, un acteur du champ mémoriel, mais aussi, comme de nombreux scientifiques universitaires que nous faisons venir ici au Musée de la Résistance et de la Déportation, tu es un historien engagé dans ton temps, qui sait te préoccuper des sujets d'actualité et leur apporter un éclairage, une petite mise en perspective et un regard critique qu'on a parfois, peut-être pas assez souvent, la joie et le bonheur de lire dans la presse, pas autorisée, mais dans la presse en général, et je pense aux articles que tu signes assez régulièrement dans Le Monde. Bref, Emmanuel, c'est un plaisir de t'accueillir ici à Toulouse, et nous allons t'écouter.
Merci Antoine. Merci à tous, merci de votre accueil, merci au musée et à son sympathique directeur. Alors oui, effectivement, je vois Joséphine Baker derrière moi, on est dans un lieu d'histoire, et c'est vrai que de plus en plus, depuis ces dernières années, je suis un peu impliqué dans des fonctions qui, finalement, touchent beaucoup à l'actualité et beaucoup à la politique aussi, parce que lorsqu'on travaille à la LICRA, ce qui est effectivement mon cas aujourd'hui, lorsqu'on met le doigt à la LICRA, on ne sait jamais jusqu'où s'arrête le... On se fait absorber parce qu'il faut, on ne s'arrête jamais, l'activité est très importante ces temps-ci. Et donc voilà, moi je suis effectivement historien, j'ai toujours été intéressé effectivement par porter un regard sur le temps présent et notamment mobiliser l'histoire pour essayer de mieux comprendre ce à quoi on assiste. Et puis c'est présenté effectivement, puisque c'est la fonction actuelle que j'occupe à la LICRA, la possibilité de faire suite à Antoine Speer, que vous connaissez peut-être, qui était un journaliste assez renommé, qui dirigeait le Droit de Vivre, qui s'appelle le DDV. Il faut le soutenir, ça c'est le journal historique de la LICRA, qui a été fondé en 1932, donc 90 ans. Il n'y a pas beaucoup de publications qui en France ont 90 ans, et donc ça c'est la forme. Alors ça ne paraît pas en kiosque ni en librairie, c'est bien le... C'est bien la difficulté, parce qu'en fait, c'est une revue qui n'a jamais paru, n'a jamais été rendue, comment dire, qui n'a jamais paru en kiosque. En fait, on a fait, nous, une tentative en plein Covid, en plein confinement. Ce n'était pas le meilleur moment. Et puis, c'est un moment aussi où les prix du papier ont complètement explosé. Il faut savoir que, vous en savez peut-être quelque chose. C'est douloureux. Donc voilà, on a une revue qui aborde des thèmes tout à fait passionnants. La prochaine sort dans une semaine, il portera sur l'antisémitisme. Je vous encourage vivement, si vous voulez découvrir à la fin. Ça c'est mon travail actuel, mais je travaille aussi d'une manière générale à la LICRA et je continue à essayer de faire un petit peu d'histoire et à porter un regard plus ou moins affûté sur le monde de l'antiracisme, parce que c'est effectivement mon sujet originel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens de l'antiracisme. On parle beaucoup d'antiracisme de nos jours. Et l'idée de représentation, alors, telle que moi je l'avais effectivement un peu définie pour cet échange de ce soir, c'était aussi la question de savoir où on en est d'un point de vue de l'antiracisme. Une chose qui paraît un petit peu évidente. Antiracisme, on saurait tous à peu près le définir. Sauf qu'aujourd'hui, en 2022, on ne sait plus trop de quoi on parle. Parfois, lorsqu'on voit certaines déclarations, certaines personnes qui des antiracistes qui se traitent de racistes entre eux. On a la même chose pour les féministes, on a la même chose pour un tas de ces sujets que vous connaissez bien et dont je voudrais, sur lesquels je voudrais ce soir essayer d'apporter quelques éclairages, notamment à l'aune de l'histoire, puisqu'encore une fois, l'histoire de l'antiracisme est quelque chose d'assez paradoxalement qui est un peu vague. Juste un exemple justement pris dans l'actualité, justement pris par rapport à Joséphine Baker. Vous savez, vous vous souvenez peut-être, alors ça dépend si vous avez le nez un peu dans les réseaux sociaux, ce qui est hélas trop mon cas, mais si vous les avez un petit peu, il ne vous aura pas échappé que le fait de panthéoniser Joséphine Baker a suscité évidemment un tas de critiques. Finalement, oui, c'est pourquoi Joséphine Baker et pas Gisèle Halimi, et pourquoi est-ce que c'est pas les Blancs qui essayent de se, une fois de plus, d'apporter des gages. Pourquoi Macron fait ça, qu'est-ce qu'il essaie de faire passer comme message, etc. Ce type de polémique aujourd'hui, qui d'ailleurs ne viennent pas du tout de l'extrême droite, mais en général d'une gauche diversitaire ou identitaire, se pose maintenant régulièrement dès que finalement on parle d'antiracisme, ou en tout cas dès que un certain antiracisme, on pourrait parler du canal historique, celui auquel finalement la LICRA appartient, puisque la LICRA est née en 1927, et bien c'est cet antiracisme-là est fortement remis en question par de nouvelles formes de militantisme. Alors, juste un point par rapport à l'histoire. J'avais, sur Le Monde, j'avais un blog que je sous-alimente aujourd'hui, mais à partir duquel j'avais l'habitude de prendre, par rapport à l'actualité, racisme anti-blanc, français de papier, le grand remplacement, des thèmes comme ça qui surgissent au fil de l'actualité, au fil de l'eau. J'avais pris l'habitude de faire une chronique une fois de temps en temps pour apporter un éclairage, pour montrer qu'effectivement, en matière de lutte antiraciste, en fait, ceux qui aujourd'hui ont l'impression de tout découvrir, en fait, quand on commence à creuser, en fait, on se rend compte que beaucoup de choses, en fait, depuis des décennies, existent déjà, aussi bien dans la configuration de certaines polémiques que dans les expressions qui sont utilisées. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, français de souche, juste un exemple, c'est aujourd'hui, évidemment, on voit de quel bord ça part, mais c'est quelque chose qui était utilisé au sein même du MRAP ou de la LICRA. Donc l'histoire est intéressante et c'est un petit peu une apologie de l'histoire que j'aimerais faire ce soir en posant un petit peu justement le décor, voire dresser un petit peu un panorama, un paysage de l'antiracisme aujourd'hui en questionnant un petit peu, en essayant de voir finalement où en est le canal historique. Sachant que le canal historique aujourd'hui est en pleine division lui-même, je parle de la Ligue des droits de l'homme, je parle du MRAP, je parle de SOS Racisme, etc. Et où en sont les, quelles sont finalement ces nouvelles formes d'engagement, de militantisme, et est-ce qu'effectivement on a des continuités, est-ce qu'on est dans la rupture ? Voilà. Alors, je voudrais commencer d'abord en disant qu'en 2022, on est dans une société dans laquelle l'antiracisme est la norme. Alors on pourra en discuter par la suite, hein, mais je crois qu'on oublie souvent, lorsqu'on allume CNews, lorsqu'on regarde les résultats aux élections régulièrement, on est vraiment dans une société où l'antiracisme est une norme. C'est-à-dire qu'on a une législation qui est extrêmement dense, on a des règlements à tous les niveaux de toutes les collectivités, enfin toutes les entreprises, etc. On a une délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et ON anti-LGBT, la DILCRA, qui dépend du ministère à l'égalité hommes-femmes. On a un défenseur des droits, par exemple, aussi, depuis des années. La DILCRA a 10 ans, quand même. Ce sont donc des instances qui développent des politiques publiques. Et donc, ça veut dire que c'est unique, en fait. En Europe, il n'y a pas l'équivalent de la DILCRA. Donc, en France, on a ce qui, pour certains, est une monstruosité, pour d'autres, un non-sens, et puis, pour un tas de républicains, quelque chose qui doit permettre effectivement de soutenir des politiques publiques avec l'aide des associations, avec l'aide de la société civile, avec l'aide également de scientifiques, puisqu'il y a aussi un conseil scientifique à la DILCRA. Voilà, donc, premier constat, effectivement, l'antiracisme existe. L'antiracisme, évidemment, n'empêche pas le racisme, mais il inspire de fortes réactions d'intolérance au racisme. Alors le fait est qu'effectivement aujourd'hui, Une des manières peut-être de vérifier que l'antiracisme est une constante, ce sont les émotions qui régulièrement surgissent dans l'actualité. Il y a une forme vraiment d'intolérance à lorsqu'il y a un dérapage verbal, lorsqu'on découvre quelque chose dans une entreprise, un abus, etc. On voit comme les choses s'enflamment, renforcées évidemment par le poids des réseaux sociaux. Je voudrais juste citer un exemple, celui par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 7 août 2021 à Metz, il y a eu cette manif contre ça devait être contre le pass sanitaire, et où cette jeune femme avec un béret, avec son joli visage, qui portait une pancarte avec marqué « Mais qui ?» Le qui, avec toute une série de noms de, à la fois de noms de personnalités juives ou assimilés à des juifs, alors Rothschild, George Soros, Jacques Attali, etc. Et puis vous avez alors le mais qui, évidemment, mais qui c'était en gros qui est derrière tout ça, qui est derrière cette grande manipulation de la crise sanitaire, de ces mesures gouvernementales qui briment les Français, etc. etc. Alors mais qui, même sans connaître forcément la polémique, on devine rapidement que ce sont des forces occultes qui cherchent à dominer le monde, etc. Le qui, le haut du qui était surmonté de cornes, donc il y avait une diabolisation qui est bien connue effectivement de ceux qui travaillent sur l'antisémitisme. Et ce qui en fait faisait suite à une polémique qui avait eu lieu au mois de juin où sur, je crois que c'était sur CNews, un journaliste avait pressé un général qui avait écrit une tribune appelant en gros l'armée à se mobiliser, non pas, enfin, pas à se mobiliser, pas à prendre les armes, mais en tout cas, il voulait alerter en fait de l'état de la France, de l'état de décrépitude, et d'une certaine forme de mobilisation qu'il faudrait peut-être avoir un jour. Et ce militaire, qui était un gradé, disait aussi que les médias étaient aux mains de certaines puissances sans véritablement les nommer. Et le journaliste sur CNews l'avait pressé de répondre, c'était Claude Posternak, qui lui avait dit « Mais qui ? Mais à qui faites-vous allusion ? Mais qui ?» En insistant « Mais qui ?» voulant évidemment lui faire dire « les Juifs ». Voilà. Alors le « qui » est devenu, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle un « mème ». C'est-à-dire un « mème », c'est une formule qui sert en fait à dire quelque chose sans forcément le nommer explicitement. C'est-à-dire qu'on a une forme codée d'antisémitisme qui a été réutilisée plein de fois et qui est venue donc publiquement en fait, s'afficher lors d'une manifestation qui avait évidemment rien à voir avec Israël ou quoi que ce soit, pour une fois, mais où il fallait bien sûr que les Juifs soient derrière. Alors ce qui est intéressant, et je reboucle avec mon sujet par rapport à l'antiracisme, c'est que, heureusement, la chose avait déjà été décryptée. On savait de quoi il retournait. On a été quelques-uns, enfin je dis « on », c'est la LICRA, à alerter, notamment par le biais des réseaux sociaux. Et en quelques heures, il y a eu un déluge de condamnations, vraiment de la part d'élus, de la part de multiples associations, etc. Il y a quelque chose qui est monté, si bien que là, en quelques jours, d'abord, on a eu une avalanche d'articles explicatifs, d'émissions, etc., en expliquant qu'il y avait des formes codées dans l'antisémitisme. Donc un grand moment de pédagogie sur les réseaux sociaux et dans les médias en général. Et puis l'enseignante a été débarquée. Voilà. Elle a été, Blanquer a annoncé qu'il la virerait. Bon, elle a été condamnée au mois de septembre qui a suivi. Ça a été très rapide. Et voilà. Alors ce qui est amusant, j'ose dire, alors, surtout qu'en fait au même moment, souvenez-vous, la stèle de Simone Veil dans la ville de Perros-Guirec en Bretagne a été souillée trois fois de suite par les mêmes personnes qui ont fini par être arrêtées. C'était deux retraités bon, qui n'aimaient pas Simone Veil, visiblement. Et bon, en fait, il a suffi, si vous voulez, qu'une simple pancarte, et il a suffi d'acte de malveillance trois fois réitéré dans une ville pour qu'on ait l'impression que finalement la bête immonde était de retour, que l'antisémitisme, il y avait une nouvelle vague, etc. Et on a, c'est amusant parce que, enfin, excusez-moi, je reprends le terme d'amusant, mais parce que lorsqu'on observe ça avec justement les lunettes de l'histoire et de l'analyse, en fait, il s'est rien passé. Enfin, c'était ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grande vague de protestations, de condamnations et de mesures qui ont été prises de manière très rapide et très efficace avec de la pédagogie. Et c'est ça l'antiracisme qui est à l'œuvre. Or, en fait, on a focalisé sur quoi ? Sur le retour de l'antisémitisme, de la bête, la France était à nouveau en proie à ses démons, etc. elle est en proie, par ailleurs, à ces démons. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle avait quand même des capacités réactives, elle avait des bons réflexes. Et ça, c'est l'héritage de quelque chose. C'est l'héritage de ce mouvement antiraciste qui est si mal connu, qui est souvent réduit, finalement, à quelques images qui sont une ringardise, « touche pas à mon pote », etc. Alors qu'en réalité, l'antiracisme est une réalité de tous les jours. Sauf que, effectivement, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Alors, nous sommes effectivement débordés souvent par des interprétations qui sont contradictoires et qui font que, en termes d'interprétation antiraciste, on va souvent avoir des gens qui vont vous dire « oui, la France est raciste », où il y a un racisme d'État, et à l'autre bout de l'échiquier, vous aurez des personnes qui vous disent que les Français ne sont pas racistes, etc. Donc, comment peut-on produire des représentations aussi finalement différentes, aussi divergentes ? C'est bien la preuve qu'effectivement, nous manquons précisément d'outils pour prendre du recul par rapport à ces événements. Et moi, ce que je prétends, c'est que véritablement, on manque d'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le... lorsqu'on parle de la loi contre le racisme, par exemple, qui, vous savez, dont on a commémoré les 50 ans, ou célébré les 50 ans le 1er juillet dernier, elle avait été promulguée le 1er juillet 72. On l'appelle la loi Pleven, on la malnomme la loi Pleven, c'est la loi contre le racisme. Eh bien, il faut savoir que cette loi a été adoptée à l'unanimité des deux chambres, donc députés et sénateurs, au mois de juin. Et c'est bien la preuve de quelque chose. C'est bien la preuve qu'effectivement, en 72, les esprits, d'une certaine manière, sont mûrs pour qu'on vote en faveur de la loi. Ou en tout cas, on n'ose pas voter contre. Ce qui est aussi, d'une certaine manière, admettre le poids moral de la question de l'antiracisme. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, la méconnaissance du passé empêche souvent la confiance dans le présent et de l'avenir. Si le racisme fait l'objet de recherches pluridisciplinaires depuis des décennies, pluridisciplinaires... On a des bibliothèques et des bibliothèques d'ouvrages, d'articles sur le racisme, antisémitisme, etc. Eh bien, on n'a pas effectivement l'équivalent sur l'antiracisme. L'antiracisme est très mal connu. La Ligue des droits de l'homme, première née en 1898, vous savez, au moment de l'affaire Dreyfus, a un historien, Emmanuel Naquet, qui a soutenu une thèse il y a maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans, et qui portait sur la période 1998-1940. Et ça s'est arrêté là. Alors Emmanuel a fait parfois quelques articles par la suite, mais on n'a finalement aucune idée de l'évolution de la LDH par la suite. On ne sait pas très bien pourquoi finalement la LDH aujourd'hui prend parfois le contre-pied de ses principes initiaux. Mais je ne vais pas forcément politiser ce soir. La LICRA est née en 1927, elle a été dissoute en 1940, elle renaît en 1944 et c'est une histoire jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une thèse donc, sur la LICRA, comme le rappelait Antoine. Moi, je me suis arrêté en 1940. J'ai par la suite, à travers un livre, parlé de la LICRA et d'autres choses. Et puis j'ai fait effectivement des billets. Ces billets sur le monde souvent utilisent les archives de la LICRA, mais on n'a pas d'histoire, si vous voulez, cursive, de la LICRA dans l'après-guerre. SOS Racisme, il existe, né en 1984, et il existe une thèse de sciences politiques qui fait un millier de pages et qui est presque illisible, en tout cas qui n'a pas été publiée, il n'y a pas eu de synthèse. Elle est librement téléchargeable, mais de toute façon, elle fait une période de 10 ans, entre 1984 et, je crois, 1993. Pareil, on n'a pas de... Alors le MRAP, excusez-moi, j'ai oublié le MRAP. Le MRAP est né en 1949, c'est quand même le plus grand mouvement antiraciste dans l'après-guerre. Lorsque le MRAP est fondé en 1949, le cirque d'hiver, là où en fait se passe la séance inaugurale, est complètement bondé. Et vous avez des députés par dizaines, vous avez des artistes, vous avez des personnalités, des intellectuels, etc. Le MRAP existait déjà dans différentes formes d'initiatives. En fait, le 1er mai 1949, au Cirque du Vert, tout s'agrège et le mouvement est lancé. Le mouvement qui s'appelait à l'époque le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, et qui s'appelle aujourd'hui le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et effectivement, l'antisémitisme est passé à la trappe, en tout cas dans l'acronyme. Mais le MRAP, c'est pareil. Le MRAP, il n'existe pas de thèse sur le sujet, il n'existe pas de livre sur le sujet. Il n'y a pas de que sais-je sur l'histoire du mouvement antiraciste. Alors, ce que je vous dis là, en fait, a l'air un peu anodin et un peu fastidieux, mais en fait, comment dire, pour créer de la connaissance, pour savoir où on en est sur l'antiracisme, il est quand même nécessaire, effectivement, de plonger dans les archives et puis de savoir exactement de quoi on parle. Or, aujourd'hui, On ne sait pas exactement de quoi on parle. Lorsqu'on parle de l'antiracisme moral, souvent l'antiracisme effectivement de SOS, etc., est qualifié d'antiracisme moral. Et puis, on a, en revanche, depuis le début des années 2000, Alors, il n'y a pas eu que SOS, la LDH, etc. Il y a eu évidemment dans les années 60, 70, d'autres organisations, aide aux immigrés, mouvement de travailleurs arabes. Il y a eu énormément d'associations qui ont évidemment intégré dans leurs préoccupations la question de la lutte contre le racisme. Et si vraiment on s'intéresse à ces grandes organisations, ces grandes centrales qui avaient explicitement dans leur statut la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ça se limite effectivement à 3-4 grandes organisations. À partir des années 2000, vous avez une critique qui se développe à l'encontre de ces organisations, et notamment à l'approche des années, enfin vers 2005, vous avez ce qu'on appelle le mouvement des indigènes de la République, qui va à ce moment-là commencer à se développer avant que les banlieues ne s'enflamment et avant que justement cette grande crise des banlieues électrise et, si vous voulez, stimule véritablement la mobilisation justement au sein des banlieues et beaucoup dans le monde intellectuel et généralise cette critique finalement contre SOS, contre la LICRA, etc. L'antiracisme politique, c'est comme ça qu'on parle de effectivement cette nouvelle génération d'associations antiracistes. Souvenez-vous, peut-être il y a 2 ans, en juin 2020, il y a eu à Paris, c'était dans la lignée de Black Lives Matter, après la mort de George Floyd, il y a eu des mobilisations à Paris. Il y a eu 2 grands rassemblements, l'un devant le palais de justice et l'un place de la République. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu en fait des mouvements avec des milliers de personnes qui échappaient complètement à la LICRA, qui échappaient à SOS même et au MRAP évidemment. Enfin, je dis évidemment parce qu'aujourd'hui ces associations sont extrêmement réduites finalement en termes d'effectifs. Et là, on avait un antiracisme qui était au contraire beaucoup plus actif. Alors, on a dit, enfin, les journalistes. Les jeunes journalistes qui occupent les rédactions et qui souvent n'y connaissent pas grand-chose ont eu l'impression que finalement, enfin, l'antiracisme était de retour ou naissait. Et que tout ce qui s'était passé auparavant, il ne s'était rien passé, en fait. Et que, en fait, dorénavant, grâce à ces jeunes qui se mobilisaient, les indigènes de la République, mais pas seulement, il y avait évidemment un tas de gens, et un tas de gens aussi qui n'étaient pas spécialement, qui n'apparaissaient pas sous une étiquette, il y avait ce sentiment qu'on avait un vieil antiracisme qui était balayé, et on parlait d'antiracisme politique. Pourquoi politique ? Parce que finalement, la critique qui était faite à SOS Racisme ou à des vieilles organisations comme la LICRA était qu'en fait, finalement, là, il y avait toujours autant de crises dans les banlieues, il y avait toujours autant de discriminations en France, il y avait toujours autant de Front National ou de Rassemblement National, et que finalement, à quoi ça servait des subventions publiques si c'était pour qu'on en soit finalement avec ce statu quo-là ? Politique, il s'agissait de repolitiser les banlieues, c'est-à-dire une volonté de faire en sorte que finalement on sorte d'un antiracisme dont on disait qu'il ne faisait finalement que condamner les propos de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il dérapait, c'est-à-dire vraiment un antiracisme qui se situait uniquement contre les déclarations verbales, antisémitisme ou racisme, et qui tournait le dos à l'essentiel, c'est-à-dire aux discriminations. Des discriminations qui sont souvent hors radar parce qu'elles sont parfois totalement invisibles, parce qu'on ne sait pas toujours comment les combattre. Je vous recommande d'ailleurs cet excellent numéro sur les discriminations avec du droit, avec des avocats, etc. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de définitions. Ce que c'est qu'une discrimination directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, etc. Et que c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire. Et c'est vrai que souvent, les organisations comme le LICRA, etc., sont un peu comme les autres, sans outils. On a un défenseur des droits, mais il y a très très peu, finalement, de procès pour discrimination raciale. Il y a vraiment un chiffre noir. Et donc, il y a eu cette espèce de caricature qui a été diffusée par les journaux, comme quoi, effectivement, l'antiracisme n'était qu'une... L'antiracisme à papa était un antiracisme de pacotille. C'est un antiracisme spectacle. Souvenez-vous, en 1984-1985, Place de la Concorde, les grands concerts de SOS Racisme, la petite main jaune, c'était le showbiz, c'était tout ça. C'était le Parti Socialiste qui essayait de récupérer le mouvement antiraciste. Et puis, c'est tout. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, évidemment, beaucoup de choses ont été faites. Les mouvements aujourd'hui sont essoufflés, sont vieillissants, etc., mais beaucoup de choses ont été faites. N'empêche que, finalement, ce vide historiographique cette méconnaissance de l'histoire fait qu'il n'est pas dur aujourd'hui pour des étudiants dans toutes les universités de France, d'abord d'être séduits par des mouvements qui vont vous expliquer que la nouveauté, la véritable action, c'est eux, que par le passé, il n'y a rien fait, on n'a rien fait. La preuve, c'est qu'effectivement, on n'a rien écrit à ce sujet-là. Alors, effectivement, ça va leur permettre d'affirmer qu'ils inventent tout. Et puis, paradoxalement, alors qu'on a très, très peu de thèses ou de bouquins sur les vieilles organisations, bah, du coup, on a une flopée de thèses et d'articles sur l'antiracisme politique. Voilà. Et puis, ceux que ça réjouit, par ailleurs, et bah, évidemment, ce sont ceux qui n'aiment pas l'antiracisme d'une manière générale. Et que ce soit l'extrême droite ou une droite qui, aujourd'hui... une droite où il n'y a pas que la droite, hein, mais effectivement, vous avez une critique, une vieille critique traditionnelle de l'antiracisme, qui est tout à fait caricaturale, qui explique que la LICRA, par exemple, est immigrationniste, c'est-à-dire que la LICRA aurait, depuis le début, porté la question de l'immigration, aurait déroulé le tapis rouge devant l'islamisme. Reportez-vous à ce qu'on disait à l'époque, vous savez, des foulards à Creil, lorsque ces jeunes lycéennes avaient voulu rentrer dans un lycée avec les foulards, lorsqu'il y a eu la crise des foulards. À ce moment-là, la LICRA protestait à la mutualité contre l'intégrisme, contre l'obscurantisme, et avait une position très claire par rapport à ça. Donc, encore une fois, ici, méconnaissance, caricature, etc. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, hier, sur CNews, expliquant dans l'émission de ce génie qui est Pascal Praud, que la LICRA et SOS Racisme ont détruit la civilisation à la française. Voilà, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous avez des associations qui ont quelques milliers d'adhérents, qui n'ont jamais roulé sur l'or, ont quelques salariés, ont réussi finalement à détruire la civilisation française. Voilà. Donc lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, eh bien, on en arrive à ce genre d'imbécilité, etc.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Alors, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance par rapport à ces mouvements antiracistes et par rapport à ces thématiques autour de la lutte contre le racisme qui aujourd'hui jalonne ou ponctue le débat. Je voulais faire un rapide tour d'horizon en mentionnant les principaux sujets qui sont mis en fait à l'ordre du jour et en vérifiant en fait s'ils sont véritablement nouveaux avant d'essayer de voir finalement si rupture il y a, où elle se situe dans l'histoire du mouvement antiraciste. Alors, l'un des premiers sujets qui me semble le plus important et qui ne vous a certainement pas échappé, c'est la question de la race. La race, on le dit souvent, la race est de retour. Alors, la race est de retour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, alors que le mot était interdit, alors que le mot n'était pas... Enfin, c'était vraiment le mot à ne pas utiliser. Le mot est revenu dans le débat public, dans les sciences humaines en particulier. Et c'est ça qui est assez frappant et qui est surtout frappant. La race, sous quel angle ? L'angle social. Évidemment, aujourd'hui, vous avez des chercheurs qui utilisent la race, qui ne vont pas expliquer que vous avez une race biologique. Ils vont parler de race sociale. Ils vont expliquer que la race est une construction sociale, c'est-à-dire que c'est une expérience. Effectivement, c'est quelque chose que l'on vit, le regard en fait, par rapport à la différence, lorsque vous avez eu pendant des générations et des générations une propagande raciste ou une vision raciste de l'humanité, etc., étayée par des thèses pseudo-scientifiques, etc., il est assez inévitable que les gens aient l'esprit pétri de préjugés et ne puissent pas s'en départir aussi facilement. Alors, là, effectivement, en interaction, souvent d'ailleurs avec des associations justement de cet antiracisme politique, vous avez dans un certain nombre d'universités des travaux qui ont été menés sur ces sujets-là pour essayer de réintroduire la race plutôt que de la chasser, dans le but, en tout cas avoué, d'émanciper, de sortir du racisme. Le problème, c'est que et c'est là, en fait, c'est quelque chose, c'est, pour moi, c'est un peu une aporie, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez la race, déjà avec des guillemets, ça semble compliqué, mais c'est que la race a perdu ses guillemets. Si, quand vous ouvrez certains livres de sciences humaines, de sociologues, je ne vais pas citer forcément Paris 8, mais on cite souvent Paris 8 parce que c'est un bastion de cette école de pensée, eh bien, vous avez on utilise assez facilement comme ça la race sans mettre les guillemets d'usage. Et si bien que la chose devient, comme on dit, performative. C'est-à-dire que on parle, oui, on précise, oui, mais c'est la race sociale, etc. N'empêche que, effectivement, tout devenant explicable par la race, tous les problèmes que vivent une partie de nos concitoyens étant transitant par la race, et en écartant d'autres facteurs, comme par exemple la question sociale, eh bien, ça finit par poser problème. Parce que vous développez chez une partie de nos citoyens, notamment de jeunes citoyens, et notamment d'étudiants qui sont volontiers en la matière actifs, un peu révolutionnaires, vous développez des idées qui sont assez subversives dans ce domaine-là. Donc on va parler facilement d'antiracisme blanc, de féminisme blanc, on a parlé aussi de l'arme blanche. Vous savez, quand un blanc a mauvaise conscience, on met du blanc à toutes les sauces, ce qui, même si on décrit un phénomène qui peut être intéressant d'un point de vue expérience sociale, ça devient quelque chose d'assez systématique, et c'est le retour de la race. Alors, la race... Je le dis tout de suite, ce n'est pas une nouveauté dans l'antiracisme. Si vous prenez Joséphine Baker, dans ses discours, dans les années 50, 60, 70, enfin, jusqu'aux années 60 avec la LICRA, Joséphine Baker parlait beaucoup de la race. On a des discours où elle explique « Je suis de race noire, et vous, mes amis, de race juive, et on est tous heureux, on est tous des races, etc. » Le fait est qu'on est dans une pensée qui, effectivement, était héritière d'une histoire fortement dominée par la race, mais l'usage est extrêmement souple. Le président de la LICRA, Bernard Lecache, à la fin des années 50, utilise lui-même le terme de race. Il y a une émission que j'ai trouvée dans les archives de l'INA où il explique que l'humanité est divisée en quatre races, noire, jaune, etc. Vous écarquillez les yeux. On est quand même 10 ans après les grandes déclarations de l'UNESCO qui condamnent au plan scientifique la race. Mais en fait, on parle de peuple, en fait. C'est quelque chose, c'est un vocabulaire extrêmement peu rigoureux scientifiquement. Et ce qu'on voit aussi lorsqu'on commence à rentrer dans les analyses des uns et des autres, notamment, enfin moi je l'ai fait par rapport aux archives du droit de vivre, c'est que vous vous rendez compte que vous avez effectivement des gens qui utilisent la race et qui sont empreints d'une pensée raciale, et puis vous avez d'autres qui ont le réflexe parfois d'utiliser la race, et puis vous avez ceux qui ne l'utilisent pas, qui refusent, qui sont... Donc on est dans quelque chose qui est un peu une sorte de laboratoire aussi du champ sémantique. On est dans une période où on apprend finalement à se départir et à abandonner ce vocabulaire racial. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, la question, à la fois la conscience de la race, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose que les militants de l'antiracisme politique nous ont appris. Un deuxième point qui caractérise cet antiracisme dit politique par rapport en fait à la vieille école, c'est la question des rapports entre dominants et dominés. Vous avez une lecture fortement héritière en fait des luttes anticoloniales, anti-impérialistes, qui se caractérise par une interprétation de l'humanité vraiment en termes de rapports entre de luttes de pouvoir et notamment entre dominants et dominés. Oppresseurs, opprimés, les peuples, la lie de la terre, et puis effectivement les puissants, les impérialistes, etc. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant aujourd'hui dans ces analyses-là. Et c'est quelque chose qui existe déjà il y a près de 100 ans. Quand vous prenez... alors je suis désolé, je vais souvent revenir à la LICA, mais il s'avère qu'effectivement, d'abord, c'est une vieille association. Et ensuite, j'ai particulièrement travaillé dessus. Mais dans les années 1930, vous avez aussi une lecture complètement aussi empreinte des théories marxistes qui consiste à dire que le racisme, c'est quelque chose qui est utilisé par le patronat pour diviser les ouvriers. C'est quelque chose qui sert, en fait, c'est structurel. Il faut combattre le capitalisme, etc. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, l'anticapitalisme, vous savez, anime les luttes antiracistes de ces nouvelles organisations. Eh bien, dans les années 30, c'est assez... La LICRA est très marquée. Alors aujourd'hui, c'est pas spécialement le cas. Enfin, elle a été plus à droite qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais dans les années 1930, la LICRA est apparentée en fait à communiste, socialiste, et surtout Front populaire à partir évidemment de 1935-1936. Dominant-dominé, vous avez des congrès qui sont organisés, des congrès internationaux à partir de 35-36-37. Vous en avez un en 37 qui s'appelle le Congrès des opprimés. Et très clairement, la propagande de la LICRA consiste à diviser l'humanité entre les oppresseurs et les opprimés. Vous avez les victimes, les bourreaux contre les victimes. Donc c'est une vision de l'humanité extrêmement binaire qui est déjà très présente à cette époque-là. Autre point, la question de l'identité. Vous savez que l'identité aujourd'hui, c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup, mais dont on ne parlait pas il y a 30 ans. L'identité, c'est un terme qui a enflé, en fait, véritablement, et au point de devenir particulièrement étouffant dans ces questions de racisme, au point où, en fait, chacun a besoin, finalement, de s'afficher en fonction de d'une identité, en fait, qu'on a tendance à penser souvent de manière assez figée, alors que auparavant, on était effectivement dans une volonté de faire corps, ou d'être ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, la tradition universaliste de l'antiracisme. L'universalisme étant quelque chose qui aujourd'hui fait sourire les plus tolérants, les plus indulgents des nouvelles générations, mais qui souvent ne plus dire grand-chose, parce que l'engagement antiraciste est parfois assez sélectif. On s'engage pour des gens qui nous ressemblent, et pas pour des gens, pas pour l'égalité. Enfin, il ne faut pas confondre la ressemblance avec le désir d'égalité. C'est-à-dire que vous avez véritablement cette idée que seuls, finalement, des Noirs peuvent parler au nom des Noirs. Alors, on peut en discuter. Mais le problème, c'est que lorsque ça devient quelque chose de systématique, finalement, on dénie toute forme d'universalisme. Si, effectivement, des Juifs peuvent uniquement parler d'antisémitisme, si, finalement, j'en sais rien, des musulmans seront les seuls à pouvoir témoigner de ce que c'est qu'effectivement les droits et les aspirations des musulmans, on est dans une humanité qui va être compartimentée, avec une forme d'assignation identitaire. Et ça, on est aux antipodes, effectivement, de l'antiracisme dans sa tradition classique, universaliste, etc. Or, la question de l'identité n'a jamais été complètement absente, même si on n'en parlait pas de cette manière-là dans les années 1930 également. Si vous prenez les débuts de la LICRA, vous avez de très belles pages pour encourager les Juifs à assumer leur judéité. Alors, on n'a pas tous ces mots, judéité, etc., ça n'existe pas vraiment sous cet angle-là, mais sous ces appellations, mais vous avez vraiment des encouragements à ce que les Juifs enfin redressent la tête, arrêtent de courber les chines et aillent retrouver leur dignité en allant taper sur la gueule des militants d'extrême droite, parce que c'était vraiment ça, et notamment émancipation par l'autodéfense. Ça, dans les rues de Paris, c'est très important dans les années 1930. C'est vraiment un des moyens de lutter contre les racistes, c'est d'aller leur sauter dessus, d'aller déchirer leurs journaux lorsqu'ils les vendent devant la Madeleine ou devant d'autres églises traditionnalistes, etc. Et vous avez toujours ce discours qui accompagne. Il faut que les Juifs soient au premier rang. S'ils ne s'emparent pas eux-mêmes de leur combat, ils ne doivent pas se mettre effectivement derrière d'autres qui seraient leur porte-parole. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va traverser toute l'histoire du mouvement antiraciste. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Simplement, aujourd'hui, ça prend des formes systématiques et excessives, parce que ça aboutit finalement à, dans certaines manifestations, et pas forcément d'ailleurs que dans l'antiracisme, mais j'en citerai juste un exemple. Il y a eu un ou deux ans, il y a eu une manifestation... une gay pride je crois que c'était à Angers ou à Tours, où, c'est presque systématique maintenant. Vous avez les militants, les organisateurs qui disaient les racisés, comme on dit, c'est-à-dire effectivement ceux qui sont identifiables par leur couleur de peau, enfin leur couleur de peau non blanche, et derrière on mettait les blancs. Donc les racisés devant et les blancs derrière. Voilà, alors. Encore une fois, moi, je suis très heureux d'en discuter. Si vous partagez pas ou si vous voulez atténuer ma manière de voir, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, les luttes traditionnelles, celles de Josephine Baker, le rassemblement, la manifestation à Washington ou à Montgomery, les grandes heures de l'antiracisme, si vous voulez, c'est tous ensemble. Et dans le partage à la fois, si vous voulez, des expériences des uns qui sont victimes dans leur chair et des autres qui apprennent et qui peuvent aussi être des vecteurs de la parole antiraciste. Je pense que les choses ne peuvent pas être compartimentées. Ça, c'est mon côté un peu universaliste, oui, je reconnais. Autre notion dont on parle souvent et qui pose problème, parce qu'en fait, elle est véritablement poussée aujourd'hui par certains mouvements antiracistes, c'est la question du racisme d'État. Le racisme d'État, vous avez dû aussi entendre parler, qui signifie tout simplement que finalement l'État français, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, le racisme est institutionnalisé. Alors, la notion de racisme d'État, elle n'est pas nouvelle non plus. J'en ai trouvé la première occurrence dans les archives du MRAP, le MRAP qui a une revue qui s'appelle Droit et Liberté, qui est une revue absolument passionnante, qui va se développer à partir de la fin des années 40 et dont tous les numéros sont accessibles en ligne. Donc si vous voulez vraiment la documentation sur l'histoire de l'antiracisme, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est quand même paradoxal qu'on connaisse si mal c'est l'histoire de ce mouvement, c'est qu'en fait, c'est comme la LICRA. Tous les droits de vivre depuis 1932 sont en ligne, sont téléchargeables. Et on peut y faire, selon les époques, parce que parfois la numérisation fait que vous avez du mode image et non un mode qui vous permet de faire de la reconnaissance de caractère, mais vous pouvez lancer des mots-clés, et c'est vraiment absolument passionnant. Le racisme d'État devient un mot d'ordre de la LICRA, de MRAP, au cours des années 70. C'est l'époque où un certain ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Michel Poniatowski, encourage les contrôles aux faciès, et de manière assez systématique, etc. Et donc c'est dénoncé de manière très énergique par le MRAP, qui en fait vraiment un slogan à partir de la fin des années 70. Voilà. Donc pareil, ce n'est pas non plus une nouveauté. Si on parle aussi de la radicalité de ces mouvements, et de leur, en disant qu'effectivement l'antiracisme traditionnel n'est bon qu'à aller dans les couloirs ministériels, ils ne sont pas présents sur le terrain, ils ne sont pas capables de faire de coups d'éclat, etc. Il suffit aussi de se pencher dans l'histoire pour se rendre compte à quel point la radicalité a été un moyen d'action, à quel point en fait nos aînés en la matière sont venus perturber des séances de cinéma où on passait des films qui pouvaient être des films racistes. Je pense notamment aux années 30 où il y avait des films allemands qui passaient dans les salles parisiennes. Ils débarquaient avec des pétards ou avec des boules puantes, ils mettaient la soirée en l'air, ils repartaient au poste. Voilà, et puis, mais c'est ça, et puis, comme je vous l'ai dit, c'était aussi faire des groupes d'autodéfense pour aller se battre, comme c'était aussi toute une organisation de boycott extrêmement active, en empêchant vraiment, aujourd'hui ce serait interdit, mais en empêchant la vente des produits allemands, etc. Dans l'après-guerre aussi, vous avez des actions assez spectaculaires. Bref, on n'est pas non plus là dans une nouveauté, il y a une histoire, et je pense qu'elle est importante à connaître. Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais particulièrement insister, c'est la question de la discrimination. La discrimination, vous savez, aujourd'hui, c'est véritablement un des griefs principaux, en fait, de ces nouvelles organisations vis-à-vis du canal historique. Vous n'avez rien compris aux discriminations, vous les avez découvertes tardivement, et vous n'avez jamais créé les outils, etc. Bon, je dirais que, pour faire simple, la loi de 72, qui introduit la discrimination de manière très très claire et de manière très explicite, c'est pareil, ça tombe pas du ciel. En 72, on a véritablement une pensée sur la discrimination, et elle tombe pas comme ça. Donc, je voudrais quand même passer par une citation, j'en ai deux, mais je vais vous en dire surtout une, parce qu'elle fait un petit peu autorité. C'est celle d'un sociologue qui s'appelle Didier Fassin, et dont là, justement, cet article qui date de 2002, qui est paru dans la Revue française de sciences politiques, fait autorité. Et Didier Fassin dit la chose suivante. Le mot « discrimination », entendu comme « traitement défavorable en raison de l'origine réelle ou supposée des personnes », il ajoute « pour reprendre l'euphémisme officiel consacré », est apparu à la fin des années 90 dans le lexique ordinaire de l'action publique en France. C'est également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l'objet de débats dans les cercles intellectuels ou politiques, et a donné lieu à des enquêtes journalistiques ou à des travaux scientifiques. C'est également au cours de cette période. Il parle de la fin des années 90. Il parle de la fin des années 90. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer les petits camarades, mais en même temps, je vais quand même le faire. C'est complètement faux. Enfin, il suffit de rentrer encore une fois dans les archives. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le DDV, il n'y a pas que Droit et Liberté en ligne. Vous allez sur Gallica, toutes les collections de la BNF qui sont numérisées. Vous pouvez faire des recherches, vous mettez des mots-clés, etc. Vous rentrez dans une presse avec des milliers de titres qui ont été numérisés. Et vous découvrez, par exemple, qu'au Conseil municipal de Paris, en 1949, vous avez des communistes qui sont là, en train de prendre la parole, en protestant pour les travailleurs de la ville, qui sont pas payés de la même manière, enfin, qui sont d'origine immigrée, qui sont pas payés de la même manière que les autres. Vous avez, je vous le rappelle, sous la 4e République, une Assemblée nationale et un Conseil de la République, le Sénat de l'époque, où les députés d'outre-mer se comptent par dizaines. Bon, ils ont pas des rôles de potiche. Hein. Ils prennent la parole, ils sont soutenus par leurs collègues communistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent de la différence dans les... dans les pensions de guerre, ils se plaignent des différences qui sont faites dans les salaires, ils se plaignent dans le traitement, ils se plaignent parfois aussi du fait qu'il y a toute une campagne comme ça au début des années 50. On refuse d'accueillir les Noirs dans les brasseries, dans les hôtels. C'est une réalité, c'est dénoncé à l'Assemblée nationale. Il y en a des traces les comptes rendus des sessions parlementaires. Tout ça, c'est une documentation qui est fabuleuse. C'est étonnant qu'on n'ait pas de thèse là-dessus. C'est tellement présent dans le débat public. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que si ça avait été tellement présent, on n'en serait pas forcément là aujourd'hui. Encore que la situation ne soit pas si catastrophique que ça. Il ne faut pas non plus aussi sombrer dans cette espèce de mantra qui va consister à répéter en permanence que la discrimination est omniprésente, etc. Ça, c'est ce qu'on essaye effectivement de nous mettre dans la tête. Il y a évidemment de la discrimination, personne ne peut le nier, et c'est un scandale, etc. Simplement, il y a une considération de la discrimination, et il y a des vraies difficultés techniques et juridiques pour faire condamner. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'histoire aussi, c'est qu'en 1959, vous avez un ministre de la Justice, Edmond Michelet, qui dépose un projet de loi pour lutter contre les discriminations. C'est pas une proposition de loi qui est portée par un vague groupuscule, etc. Vous avez un ministre du gouvernement Debré de l'époque, donc le premier gouvernement de la Ve République, qui va déposer un vrai projet de loi pour... Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il va passer à la trappe. On est au début des années 60. Il y a la guerre d'Algérie. On balance des Algériens à la Seine. Dans la mesure où, dans ce projet de loi, était spécifiquement précisé que les dépositaires de l'autorité publique qui seraient amenés à discriminer seraient punis encore plus fort, etc. Bon, c'était absolument... c'était pas le moment, quoi. Bref, le truc est passé à la trappe. Mais c'est pareil. Pour que ce projet de loi ait été... et puisse être porté, en fait, par le gouvernement, c'est bien la preuve, là aussi, qu'on ne découvrait pas la discrimination. C'était quelque chose qui, en fait, il y avait des débats. Il y avait des... Et encore une fois, si vous vous reportez au droit de vivre à cette époque-là, ou à droit et liberté, vous verrez des enquêtes complètes. Parce que c'est évidemment l'époque où les colonisés ou ex-colonisés arrivent en nombre sur le territoire français. Et donc, vous avez des enquêtes sur les taudis, vous avez des enquêtes sur les bidonvilles. Et le MRAP, plus que la LICRA, incontestablement, tire l'alarme sur ces populations qui sont discriminées, etc., etc. Et qui sont maltraitées par le gouvernement, c'est les années Giscard, etc. C'est le bon. Voilà. Donc tout ça pour dire que lorsqu'il n'y a pas d'histoire, on peut aussi écrire n'importe quoi. On peut laisser entendre aussi que on n'en a pas parlé avant la fin des années 90. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, la mémoire autour des colonies est tellement importante qu'elle anesthésie toute forme d'esprit critique et que finalement, les Français sont bien contents entre eux avec leurs préjugés raciaux. Ils restent complètement pétris de leur histoire coloniale. Ils sont capables de s'en dégager. Et ça, c'est pas complètement faux, toujours, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les années 40 aujourd'hui. On est, et on l'était aussi à la fin des années 90. Il y avait déjà, on parlait d'histoire coloniale. Alors aujourd'hui, ça s'est considérablement développé. Mais il y a un mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, qui était un mouvement qui s'est transformé en parti, qui était le parti des Indiens de la République, qui a effectivement développé, vous savez, ce courant dont on parle souvent, le courant décolonial. Décolonial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, effectivement, oui, il n'y a plus de colonies, mais on continue, finalement, dans nos esprits, à être empêtrés dans ces questions de colonies. Alors, encore une fois, tout n'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on est héritier d'une histoire, et les mentalités, comme disait Brodel, c'est ce qui met le plus de temps à évoluer par rapport aux politiques ou par rapport à l'économique. Et finalement, c'est un travail au long terme. Mais lorsqu'on voit la réalité de la société française aujourd'hui, sa diversité, lorsqu'on voit justement le comment dire, à la fois les lois, les initiatives, etc., etc., on ne peut pas non plus caricaturer et dire qu'on est, finalement, on continue à baigner dans les discriminations parce qu'on refuse de lâcher, on refuse. Il y a énormément de résistance. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent à les faire sauter. Mais je crois qu'il faut se méfier d'un militantisme qui serait caricatural, radical, et qui viserait effectivement, qui miserait uniquement sur la victimisation et la culpabilité. La question donc que je voulais poser, c'était finalement, comme je vous ai dit, que identité, race, dominant-dominé, etc., tout ça, c'était pas nouveau. Racisme d'État ou racisme institutionnel, vous savez qu'on en parlait aux États-Unis dans les années 60. si tout ça n'est pas nouveau, où se situe finalement la rupture entre l'antiracisme traditionnel et aujourd'hui ce qui finalement devient un peu envahissant et se manifeste sous beaucoup d'aspects. Enfin, on n'en parlera pas. La rupture, pour moi, elle se situe d'abord au niveau du rapport à l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ces organisations antiracistes, le MRAP, la LICRA, à l'origine la LDH ou encore SOS, sont des organisations qui ont toujours eu des rapports avec l'État, avec les pouvoirs publics, la LICRA en particulier. La LICRA s'est toujours pensée, en fait, a toujours pensé la nécessaire collaboration avec les autorités, quelle qu'elle soit, que ce soit sur la question des réfugiés dans les années 30, que ce soit la question de l'immigration d'une manière plus générale, que ce soit la question de diffuser de la propagande sur la radio d'État dès les années 30 contre le racisme. Il fallait forcément avoir un interlocuteur au ministère de l'Information. Lorsqu'on voulait aussi protester contre certains excès de la police, qui sont une réalité, qui ont toujours été une réalité, mais qui l'étaient évidemment dans les années 1930, eh bien, il vaut mieux effectivement aller frapper à la porte du ministère de l'Intérieur plutôt que de protester de rang en disant que la police est raciste et qu'il n'y a rien à faire avec la police, ou jeter des pierres, etc. Ça, alors je fais ça un peu rapidement, mais c'est vrai que alors on pourrait dire aussi, oui, mais attention, vous cautionnez, etc. Ok, c'est le parti pris. Alors ça n'empêche pas les éditos parfois assez agressifs envers tel ou tel ministre, ça n'empêche pas de dénoncer, etc. Et ça n'empêche surtout pas d'aller émettre une protestation auprès en utilisant des élus, puisqu'en fait il y a beaucoup dans ces organisations de liens avec des élus de la République, pour aller justement porter justement une remarque, une critique, etc. Et ça, ce n'est pas du tout l'optique des nouveaux mouvements antiracistes qui vont être plutôt dans la dénonciation de l'État, puisque l'État est raciste. Ben, il faut combattre l'État, puisque l'État, il faut faire tomber les statuts, on peut rien faire avec l'État. Il faut bousculer. La République est intrinsèquement raciste, puisque elle est l'héritière effectivement d'une histoire coloniale. Et puis de toute façon, elle a été coloniale elle-même. Elle a colonisé l'Afrique, elle a colonisé l'Asie, et elle s'est largement enrichie grâce aux colonies, etc. Le ver est dans le fruit. Donc on ne peut pas discuter avec la République. Il faut une révolution profonde. Cette révolution, elle est contre cet universalisme de façade, elle est contre ce triptyque liberté, égalité, fraternité, qui n'est qu'une une mascarade. La liberté, elle est très relative. L'égalité, elle n'existe pas. La fraternité, mon œil, ça sert uniquement à faire passer effectivement un discours d'une République droite dans ses bottes. Voilà, c'est ce type effectivement de critiques qui vont être énoncées. Et donc voilà, je crois que la différence est là. Il y a véritablement une rupture. Et puis, on a aussi quelque chose qui passe à la trappe complètement avec ces nouvelles organisations antiracistes. Enfin, quand je dis organisation, ça va au-delà, hein. C'est de manière très informelle. C'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup de gens qui sont tout simplement imprégnés de théories et de cette manière de voir les choses, une critique de l'universalisme, critique aussi de la laïcité, critique, etc., et qui n'ont pas besoin d'émarger dans telle ou telle partie, mais qui sont... c'est en fait... Je crois qu'il faut souligner aussi la force intellectuelle de ce nouvel antiracisme qui donne lieu à une abondante... bibliographie et qui va aussi, encore une fois, beaucoup séduire les étudiants. Et ce qui est assez frappant, c'est que le fait de voir finalement l'antiracisme uniquement à travers la question des discriminations fait que faites passer à la trappe, par exemple, la question de l'antisémitisme, qui n'est pas une mince affaire. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous raisonnez en disant « il y a des dominants, il y a des dominés », et vous voyez les choses uniquement à travers la question des discriminations, vous en concluez assez rapidement que les Juifs, non, ne sont pas discriminés. D'abord, ils sont blancs. Les Juifs sont blancs. Alors, dans les années 30, ils n'étaient pas blancs, les Juifs. Hein. C'était des Orientaux, des Levantins. L'extrême droite les disait retourner en Israël. Aujourd'hui, on va plutôt leur dire dégager d'Israël. Dans les années 30, ils étaient des Orientaux. Aujourd'hui, ce sont des Blancs. Et en plus, ce sont des Blancs colonisateurs, puisque en fait ils se sont installés sur les territoires, dans les territoires occupés, etc. Enfin, qui sont aujourd'hui des territoires occupés. Donc, à partir du moment où les Juifs ont perdu leur statut de victimes, eh bien, ils sont dénoncés plutôt, et notamment à travers effectivement la question d'Israël, au point que la grande théoricienne des indigènes de la République, Ouria Boutelja, vous expliquera qu'il suffirait finalement que le conflit israélo-palestinien soit résolu, que les Israéliens quittent les territoires occupés et éventuellement même disparaissent, pour que l'antisémitisme disparaisse en France. En gros, il y a une espèce de résolution magique qui d'ailleurs ignore complètement les ressorts profonds et historiques de l'antisémitisme, hein, qui déborde évidemment la question d'Israël. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, dans cette nouvelle approche de l'antiracisme, l'antisémitisme n'a pas sa place. Le juif fait plutôt quelqu'un de, comment dire, de qu'on soupçonne. Et c'est quelqu'un qui incarne plutôt le capital, l'Occident, la domination, etc. Voilà. Alors, je conclue là-dessus en disant que c'est plutôt... on a plutôt affaire à un antiracisme de rupture. Et évidemment, c'est bien compliqué parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop qui parle, qui condamne. On ne sait plus aussi, dans la mesure où ce sont des associations ou des personnalités d'une manière qui apparaissent d'une manière extrêmement dispersée, aussi bien dans la presse que dans les médias, etc., et que c'est assez peu identifiable. Ce sont plus des idées qui infusent aujourd'hui que véritablement des associations que vous allez pouvoir identifier. Simplement, voilà, il faut comprendre un petit peu cette grille de lecture avec ce paradigme dominant-dominé qui s'est substitué à quelque chose qui est beaucoup plus universaliste et qui, certainement, si on parle de la LICRA, etc., aurait besoin d'un second souffle et d'être considérablement rajeuni et puis de peut-être davantage encore mettre les mains dans le cambouis pour ce qui est de discrimination. Donc l'antiracisme, c'est un chantier permanent, mais je crois que les formes radicales et sectaires qui se développent depuis quelques années, de mon point de vue, et là-dessus je serais assez subjectif, mais mon avis ne servent pas fondamentalement la cause. Voilà. Je vous remercie.
Mémodio, une mémoire sonore.